Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Moana. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Charlène, une personne extraordinaire qui a entrepris un voyage captivant de psychologue à photographe. C'est une transition aussi unique que fascinante et je suis vraiment ravie de partager son histoire avec vous. Charlène incarne la douceur à l'état pur. Sa voix apaisante et son regard bienveillant ont accompagné de nombreuses personnes au cours de sa carrière en tant que psychologue. Un jour, elle a décidé de pivoter vers la photographie et ce choix s'est révélé être une révélation. Ce n'est pas simplement une photographe talentueuse, mais c'est aussi une artiste qui capture des moments avec une sensibilité incroyable. Chacun de ses clichés raconte une histoire reflétant la véritable essence des personnes qu'elle photographie. Dans cet épisode, Charlène partagera les détails de sa transition professionnelle, les défis qu'elle a relevés et les merveilleuses découvertes qu'elle a faites en cours de route. J'ai été particulièrement touchée par la manière dont elle continue d'apporter cette douceur et cette bienveillance dans son nouveau métier. D'une certaine manière, ses séances photos sont devenues une véritable thérapie de bien-être, où elle guide ses sujets avec une empathie sans faille. Préparez-vous à être inspiré et captivé par l'histoire de Charlène. Laissez-vous emporter dans le monde magique de la photographie où chaque image est une nouvelle page d'une histoire racontée avec passion et compassion. Sans plus attendre, plongeons dans cet épisode unique et découvrons ensemble le parcours extraordinaire de Charlène. Bonjour Charlène.
Bonjour Thierry.
Écoute, merci de me recevoir chez toi, dans ta belle maison. Il fait super beau, c'est vraiment chouette. Merci d'avoir accepté l'invitation pour enregistrer cet épisode qui te sera entièrement consacré. Écoute, dans un premier temps, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie?
Alors, je m'appelle Charlène, j'ai 36 ans, j'ai deux filles. Lise qui va avoir 5 ans le 24 décembre et Rose qui a 3 ans là. Et je suis donc psychologue de formation de base, j'ai exercé pendant 12 ans et là je suis photographe.
Oui. T'as du mal à le dire.
Oui, j'ai encore du mal, oui.
T'as encore du mal à le dire. Mais justement, ça tombe bien parce qu'en fait, cet épisode, c'est un peu un épisode où on va parler de ta reconversion. T'as du mal à le dire parce qu'en fait, finalement, c'est pas si vieux que ça.
C'est
tout nouveau, mais c'est parfait parce que justement, c'est aussi le thème de l'épisode. On va parler un petit peu de ton métier, de ce que tu as fait avant de devenir photographe. Tu nous as dit que tu as été psychologue pendant 12 ans. Tu as d'abord été psychologue dans un hôpital public et puis ensuite tu as eu un épisode où tu étais à ton compte avant finalement de te lancer en tant que photographe. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en tant que psychologue, comment ça a commencé, psychologue à l'hôpital, comment est-ce que tu l'as vécu?
Oui, alors, donc moi j'ai commencé en sortant de la fac, j'ai eu mon premier poste en CDI, en psychiatrie pour adultes. J'étais d'abord dans ce qu'on appelle un CAC, un centre d'accueil et de crise, donc qui accueille des patients qui traversent une phase difficile, par exemple souvent accompagnés d'idées suicidaires et qui nécessitent d'être au minimum évalué, voire hospitalisé, pas forcément longtemps, mais cette hospitalisation a permis justement l'évaluation et l'orientation derrière.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et donc à ce moment-là, est-ce que des patients que tu recevais donc, en hôpital, est-ce que c'était des patients que tu avais sur une durée ou est-ce que c'était vraiment des patients que tu voyais de façon ponctuelle?
Alors, à la base, c'est des patients que j'aurais dû voir de façon très ponctuelle, c'est-à-dire les évaluer et réorienter. Et en réalité, quand tu rencontres une personne qui va très mal, qui vit une période de crise, la tâche, le lien peut se faire beaucoup plus fort à ce moment-là, et ça peut être compliqué de réorienter, de dire à quelqu'un, bon ben, vous m'avez tout raconté, je sais tout, maintenant vous allez aller voir quelqu'un d'autre pour la suite.
Ouais.
La théorie c'était ça, la réalité c'est que je continuais à suivre, même quand ils étaient plus hospitalisés, la majeure partie des patients.
Non, et puis j'imagine que même pour eux, ça doit quand même être beaucoup plus, non pas simple, mais plus rassurant du moins, d'avoir une personne justement à qui ils ont déjà raconté l'histoire qui les suit, et de ne pas avoir aussi à raconter à nouveau à une autre personne, sachant que bon, bah, c'est quand même des histoires assez personnelles.
Bien sûr.
Et j'imagine que ça doit aussi être beaucoup plus rassurant, voilà, pour eux de continuer avec un seul interlocuteur. Et justement, j'allais te demander, toi, en tant que psychologue, enfin, j'avoue que c'était une question qui était assez générale que j'avais, en fait, je me demandais, est-ce que le psychologue peut avoir de l'affect vis-à-vis de son patient ? En fait, en général, est-ce que les psychologues s'attachent à leurs patients ? C'est une question que j'avais, parce que, enfin, je me la suis toujours posée. Moi, je me dis que les patients, quelque part, peuvent s'attacher à leur psychologue, parce que c'est, enfin, ils se livrent en fait, c'est des histoires personnelles qu'ils racontent, et je me dis, il faut faire confiance à une personne pour pouvoir aller aussi loin dans les détails de sa vie privée. Et du coup, je me demandais si à l'inverse, est-ce que les psychologues eux aussi s'attachaient finalement
Ouais, je peux pas te dire si les psychologues s'attachent de manière générale, mais moi, je suis persuadée que c'est parce que je me suis attachée à mes patients que j'ai réussi à les faire avancer et à travailler avec eux. Alors tu t'attaches pas comme à des amis, tu t'as pas la même relation du tout, parce que toi tu dis rien de toi alors que tu sais tous deux. Mais moi oui, je pense qu'à 90% de mes patients j'étais attachée réellement. Avec aussi des affects que tu montres pas forcément, mais des histoires qui te touchent énormément, des envies de pleurer aussi pour certaines histoires. Et puis il y a peut-être 10% autres où c'est plus difficile de créer un lien, parce que ça te renvoie à des choses que toi t'aimes pas forcément, ou de ton histoire, et mais ça reste une minorité de patients. Et donc oui, moi, je me concernant dans ma pratique, en tout cas, j'étais attachée pour bien travailler avec eux. J'étais attachée à eux.
C'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé du fait d'avoir même envie de montrer ses émotions un peu, de pleurer par exemple. Comment tu gères ça? Comment tu gères ça?
Je pense que c'est quelque chose un peu comme un rôle que tu endosses quand t'es dans ton bureau. Tu sais que t'es là pour ça. Tu sais que si toi t'es pas en mesure d'entendre les horreurs que t'entends, qui sont en train de te raconter et qui est leur vie. Si toi tu t'effondres, comment veux-tu que eux ils arrivent à se dire ok, je vais y arriver, je vais avancer.
Exactement.
Et donc tu te mets, enfin moi en tout cas, je me mettais dans une sorte de rôle, où je sais ce qu'il faut faire, je sais comment je dois être, et je sais que je dois pas m'effondrer avec eux. Après j'ai pas une technique magique qui fait que tu...
Non, mais c'est intéressant de... Je comprends tout à fait d'ailleurs l'histoire de se mettre dans un rôle, etc. Mais j'imagine quand même que derrière ça, il y a quand même une charge en fait. Comment tu évacues ça? Je sais pas, est-ce que c'est le soir, tu te libères finalement de tout ce que tu as vécu toute la journée, parce que c'est quand même des histoires assez... Enfin, je pense qu'il y a dû y avoir quand même des histoires assez fortes.
Oui. Quand t'es pendant 10 ans en psychiatrie, c'est plutôt lourd. C'est des histoires de vie très douloureuses. Et je crois que j'avais pas de stratégie pour évacuer. Mais en tout cas, ce que je savais, c'est qu'il fallait que je sois la plus équilibrée possible. Ce qui n'a pas toujours été le cas, parce que j'ai traversé aussi des choses dans ma vie à certains moments notamment un deuil. Et là, c'était beaucoup plus compliqué. Et du coup, il y avait des troubles que je prenais plus à ce moment-là.
Ouais.
En l'occurrence, les deuils, je
qui étaient un peu trop en rapport avec ce que tu vivais.
Ouais. Et du coup, pour revenir à ta question, comment on faisait, comment je faisais, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est de pas avoir justement cette énergie quand j'ai eu mes filles, quand j'ai eu la deuxième surtout, de me dire de rentrer le soir et de justement d'être chargée de toutes ces émotions et d'après devoir gérer mes émotions à moi et les leurs qui sont quand même très très fortes.
C'est ça, hein. surtout à partir de ce moment là
c'est ça, enfants, toi en postpartum et toi avec deux filles en bas âge, une qui traverse l'opposition, l'autre qui est un tout petit bébé. Si t'as pas l'énergie pour elle le soir, c'est compliqué. Et si t'as pas l'énergie le matin pour aller écouter toutes les souffrances de tes patients, c'est compliqué aussi. Et
faut trouver une sorte d'équilibre.
C'est ça. Et je pense que mon équilibre à un moment, ça a été de changer. D'abord de passer en libéral, et après d'arrêter le libéral.
Avant de revenir sur parce que ça c'est j'aimerais bien savoir finalement ce qui a été le déclic pour que tu te mettre en libéral du moins, mais j'avais une petite question pour la partie hôpital. Est-ce que tu as un souvenir, enfin une histoire d'un de tes patients ou vraiment un fait qui a été marquant pendant cette période là
le plus marquant et qui me vient tout de suite en tout cas, c'est le 13 novembre 2015, puisque je faisais partie aussi de ce qu'on appelle la CUMP, qui est la cellule d'urgence médico-psychologique. Et on a été appelé pour intervenir après les attentats de Paris à l'Institut médico-légal qui du coup le lendemain des attentats recevait les familles qui venaient d'apprendre c'était le plus marquant et en même temps une vraie parenthèse dans ta vie, parce que pendant 48 heures t'es coupé du monde, t'es vraiment avec eux et c'est une expérience que tu peux pas décrire non plus autour de toi, et du coup tu te retrouves pour le coup très seule en tant que psychologue à ressentir des choses très fortes. Donc ça c'est l'expérience qui aurait été la plus marquante.
En plus, ce qui est particulier pour cette expérience, du moins je le ressens comme ça, c'est que c'est vrai qu'il y avait des victimes, donc celles qui ont été particulièrement touchées parce que il y avait des proches, mais en fait au final on a quand même tous été touchés par ça, donc j'imagine que tu as ta propre peur parce que ça aurait pu être n'importe qui, et en même temps il faut que tu puisses gérer ça et puis en même temps accompagner des personnes qui elles ont eu des vrais... en fait on était tous victimes quoi à ce moment là. Ça a dû être ça a pas dû être facile pour toi.
Ben non, et puis sans vouloir faire de hiérarchie entre la manière dont on est touché par ça, parce qu'effectivement on a tous été plus ou moins touchés, et là t'étais face à ceux qui étaient pour le coup pris de plein fouet par ça. Y compris des patients, en tout cas des personnes qui étaient présentes au Bataclan et qui ont aussi perdu un proche. C'est pareil, tu dois être dans ton rôle de psychologue, mettre de côté pour le coup tes émotions. Et c'est là que ça a été le plus compliqué à faire.
Eh bien, j'imagine. Alors, pour revenir un petit peu à ton parcours, donc tu as eu 10 ans en hôpital public, et puis à un moment donné, tu te dis j'aimerais bien travailler à mon compte, être psychologue libérale. Quel a été le déclic finalement pour ça. Est-ce que tu peux nous raconter?
Oui. Alors d'abord, j'ai eu ma première fille et j'ai repris au congé maternité classique. Ouais. Donc elle avait 3 mois. Et en fait, c'était beaucoup trop tôt.
Long débat qu'on a souvent, régulièrement, ouais. Voilà. Mais ouais. C'est toujours pareil, on dira toute la même chose. Hein. Ouais. C'est trop peu.
C'est ça. Je ne m'étais pas posé la question à ce moment-là. J'étais dans le truc travailler, reprendre le travail. Et voilà. Et en fait, c'était compliqué. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était d'arrêter de travailler le soir et de la récupérer. Ouais. Et donc, quand je suis tombée enceinte de ma deuxième, je me suis dit, j'ai eu l'opportunité, on m'a proposé en fait de mettre en libéral. Sauf que je m'étais dit, je vais faire mi-temps libéral, mi-temps hôpital. Et j'en étais persuadée, vraiment. Et c'est uniquement quand j'ai accouché de Rose que j'ai senti que retourner à l'hôpital, en fait, j'avais plus envie. Pour plein de raisons, notamment l'aspect pratique.
Ouais.
Parce qu'en libéral, je me disais, je vais peut-être pouvoir m'occuper beaucoup plus d'elle. L'aspect de l'hôpital qui se dégradait quand même pas mal, même si moi, en tant que telle, j'étais épargnée. Mais je trouvais que les conditions étaient vraiment défavorables.
C'est compliqué. Ouais.
Et puis aussi, je pense, l'envie de tenter autre chose, de voir si c'était fait pour moi, si je pouvais sortir de ma zone de confort qui était quand même devenue l'hôpital hein, pendant 10 ans. Voilà, c'est confortable. Tu sais ce que tu fais, tu sais comment tu le fais, voilà.
Ouais, 10 ans quand même, ça, ça fait quand même une belle expérience. Et justement... tu l'expliques, ça n'a pas été facile pour toi de quitter. Est-ce que tu peux me dire un peu les raisons? Enfin, c'est peut-être aussi, comme tu disais, la zone de confort, etc. Et puis, peut-être, tu te sentais peut-être aussi, tu me disais tout à l'heure, c'était comme une vocation,
oui,
ça?
Oui. Bah oui, quitter l'hôpital, c'est... quand tu travailles à l'hôpital, tu ne le fais pas pour être riche, hein, clairement. psychologue, tu démarres à 1300 euros alors que tu as fait 5 ans d'études et tu gravis pas beaucoup d'échelons derrière. Donc tu le fais pas pour ça, tu le fais parce que tu es convaincue que c'est la meilleure chose à faire pour être utile et parce que tu as des valeurs derrière, de soins, de l'importance de la santé mentale et de la gratuité de tout ça, en tout cas de l'accès aux soins. Et donc partir de ça, pour te mettre en libéral, c'est aussi, ça questionne au niveau de tes valeurs, parce que pendant 10 ans, j'ai jamais été payée directement par un patient. Et là, j'allais devoir passer à, ok, je fais le même travail, mais la personne en face de moi, elle va devoir me payer à moi directement. Donc il y avait ça, là, cette envie quand même de tester ça, mais cette grosse difficulté. Et puis aussi partir de relations que tu as créées avec une équipe pendant 10 ans, et surtout avec des patients, parce que certains patients, tu les as connus au tout début, et puis ils sont revenus 5 ans après, et puis ils revenaient encore 2 ans après, et donc il y a des vrais liens que tu as créés
avec
eux. Oui,
c'est ça, comme tu nous disais tout à l'heure, tu t'attaches quand même un petit peu à ces patients-là.
Et puis tu leur dis... Enfin, ça te laisse un peu une sensation de les abandonner.
Ouais.
Qui est très difficile. Donc ça, c'était les difficultés, ouais.
Et justement, alors, quand tu te lances en tant que libérale, ça y est, c'est fait, c'est acté. Comment est-ce que ça se passe pour toi?
C'est beaucoup de stress.
J'imagine. Ouais, Parce que là, tu deviens... Est-ce qu'on considère là que t'es... Enfin oui, t'es à ton compte. Est-ce que c'est comme une sorte d'entrepreneuriat ou
Bah oui, au final, oui, tu gères tout seul.
Ouais.
Après, moi, j'étais dans une maison de santé, donc j'étais pas isolée, pas du tout. Il y avait beaucoup d'autres professionnels dans la maison de santé. Néanmoins. moment, tu es quand même seule face à tes patients, à ta compta, à ton planning, ce que tu découvres quand tu pars de 10 ans de salarié à l'hôpital.
Où tout était finalement rythmé.
Oui, tu as des horaires, des pauses repas. Là, tu découvres que tu peux fixer tes horaires, arriver à l'heure que tu veux, partir à l'heure que tu veux, et c'est un peu compliqué au départ de pas avoir ce cadre. Donc ça s'est passé comme ça. Ça a été beaucoup de stress, beaucoup de bonheur de se dire mais cette liberté quand même.
C'est ça, j'imagine que tu as dû effectivement ressentir cette liberté-là. En plus, tu avais déjà tes filles.
Mais oui.
Ça t'a...
Mais oui, moi, pouvoir les récupérer tous les jours, c'était. C'était ce que j'avais toujours espéré.
Alors, tu parlais tout à l'heure de zone de confort en étant à l'hôpital. Là, c'est encore une autre zone de confort.
Plus familiale.
Aussi, voilà. Ça te permet aussi effectivement de pouvoir être plus disponible pour ta famille et d'avoir ce temps-là. Et pour reparler un peu de l'aspect professionnel, les patients, parce que je me demandais... tu as eu quand même ces 10 ans à l'hôpital. Est-ce que ta typologie de patient a changé en passant justement en libéral?
Oui, quand même. La grosse différence, c'est que c'est des gens insérés socialement.
Ouais.
Donc les problématiques sont... les problématiques de vie, finalement, sont les mêmes, mais la manière de les gérer est différente. Parce qu'il y a souvent du soutien social qui est associé. Donc, par exemple, il y a certains troubles qui vont avoir moins de conséquences, parce que quand tu as du soutien social, c'est plus facile de rebondir, par exemple, parce que financièrement, tu es encore inséré, tu as un travail, que ça te donne des outils en plus. Donc oui, c'était pas... on va dire que c'était les mêmes troubles, mais peut-être pas la même intensité.
D'accord. Ok. Intéressant. Et alors, donc, tu as fait ça pendant 2 ans, tu me dis.
Oui, c'est ça.
Et, c'est vrai que oui, tu as fait ça pendant 2 ans et après, aujourd'hui, tu es devenue photographe alors qu'il n'a absolument rien à voir. pourquoi, finalement, en libéral, 2 ans, à l'hôpital, 10 ans, est-ce que c'est parce que... finalement, ça t'a... comment a été ton expérience, finalement? Est-ce que ça a été moins bien pour toi? Pourquoi juste 2 ans?
Non, je crois que ça n'a pas été moins bien. Mais c'est moi qui avais changé.
Ouais.
Je pense que déjà, quand j'ai quitté l'hôpital, j'en étais pas consciente, mais je commençais déjà à... cette envie de changement, c'était peut-être pas juste une envie de changement de contexte.
De contexte, ouais.
C'était peut-être plus que ça, mais j'en étais pas consciente. Et là, ce qui fait que en libéral, ça s'est révélé, c'est que j'arrivais plus à justement à être dans ce rôle. Je sentais que les émotions des patients me prenait beaucoup plus. Je sentais à la fin de la journée une énorme fatigue que j'avais pas forcément avant. Et c'est ce que je te disais, c'est que quand t'as cette énorme fatigue après une journée qui était relativement courte, puisque du coup je commençais à 9h et je devais arrêter à 16h. Donc on peut se dire que c'est très court, sauf que je prenais pas de pause déjà. Et en plus, comme je t'ai dit aussi, je suis à 100% avec mes patients. Et peut-être qu'à force d'être à 100% pendant 12 ans, tu peux plus y être autant. Et je sais pas trop être dans un entre-deux.
À peu près.
Je sais pas le faire, ni dans la vie pro, ni dans la vie tout court. Et du coup je me suis dit, là, il faut que tu fasses une pause. Parce que ce qui est essentiel, c'est que j'arrive à être la maman que j'ai envie d'être avec les filles. Et si je suis fatiguée, si j'ai plus la patience, si j'ai plus l'énergie pour elles, ça va pas aller. Mon équilibre, il va vraiment être rompu. Et donc, je me suis autorisée à réfléchir.
Une remise en question quand même, alors que tu n'as pas su enfin pas su, mais que tu n'as peut-être pas détecté tout de suite, voilà, mais qui est quand même arrivé après. Ouais. Et donc finalement, ça t'emmène à faire ce que tu fais aujourd'hui.
Ouais.
Et c'est marrant parce que ça n'a rien à voir. C'est complètement différent.
Oui.
Bien que je trouve que si je peux donner quand même un point commun, c'est peut-être le côté humain.
Bah carrément.
Voilà.
Humain et intime.
Intime aussi ouais,
parce
tout à fait.
Je suis pas photographe d'entreprise, quoi. Je reste dans des relations très individuelles au final. Je travaille avec l'émotion toujours, sauf que c'est des émotions beaucoup plus positives.
C'est exactement, tu vois, en venant ici pour notre épisode, j'y pensais, je me disais, finalement, c'est vrai que c'est effectivement, on est toujours dans l'humain, on est toujours dans des émotions quand même fortes, mais on est plus sur du positif, comme tu viens de dire. Et justement, voilà, parle-nous un peu. Donc aujourd'hui, tu es photographe, donc ça fait pas très longtemps.
Non, c'est tout neuf, puisque j'ai lancé l'entreprise en septembre.
Ah oui. Nous sommes en novembre. Alors, cet épisode ne va peut-être pas être posté en novembre, c'est sûr, même sûrement pas être posté en novembre. Mais du coup, oui, effectivement, ça fait 2 mois.
C'est ça.
C'est génial. Alors, raconte-nous déjà comment t'es venue cette envie de faire ce métier-là. Bien que moi je vois quand même des petites
des
liens avec ce que tu faisais avant. Comment t'es venue cette envie-là? Pourquoi ce métier-là? Et puis, je te laisse.
En fait, à partir du moment où je me suis posé la question de tu veux arrêter, mais tu sais que tu peux pas ne rien faire, mais tu sais aussi que en tout cas, moi, j'avais l'impression que je savais rien faire d'autre que psychologue. J'avais vraiment cette sensation que je serais psychologue toute ma vie et que je saurais pas faire autre chose.
Tout à l'heure, tu parlais de vocation. Ça a complètement de sens.
Oui,
sens,
c'est ça. Et donc, là, s'ouvre le grand trou noir. Ok, tu peux plus pour l'instant. Tu peux peut-être faire une pause et y revenir plus tard. Mais en attendant, tu fais quoi? Et donc, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis tournée vers la possibilité de faire un bilan de compétences. Et finalement, je ne l'ai pas fait. J'ai eu des échos, pas forcément...
très positifs.
C'était pas forcément fructueux pour les personnes qui l'ont fait. Et j'ai essayé de réfléchir par moi-même à qu'est-ce qui serait réaliste ou pas. J'ai listé des choses en me disant « Ok, tu mets, même si ce n'est pas du tout faisable. » Et la première chose qui venait, c'était quand même photographe dans le monde de la parentalité. Mais comme un truc, ok, bon, ça, je sais que c'est là, mais je sais que c'est pas possible. Comme si, vraiment, c'était impossible. Et donc, j'avais listé peut-être d'autres trucs.
Mais pourquoi c'était impossible? C'était toi qui te renvoyais cette idée-là? C'était pas possible?
Oui, comme si, c'était inaccessible pour moi, que c'était pas moi. Donc j'y pensais même pas, mais je pense que c'est tout un cheminement où à partir du moment où tu l'écris déjà, où tu commences à le verbaliser aussi, à dire j'avais ça, petit à petit ça chemine.
Ça fait son chemin.
Oui, et puis des fois tu en discutes un peu plus en disant à Simon, en l'occurrence mon mari maintenant.
Mon mari s'appelle aussi Simon.
C'est vrai, très beau prénom, très très bon mari. Et donc à le verbaliser avec lui en premier, en disant mais qu'est-ce que t'en penses, comme un peu lancé comme une blague de mon côté pour voir la réaction en face, tu vois. Et puis après s'autoriser à en parler à mes amis très proches. Qui m'ont encouragée tout de suite et puis après j'ai osé mettre les choses clairement petit à petit, m'autoriser encore, tu vois,
j'allais y venir
à y penser sérieusement. Et j'ai lancé les choses avec mon compte CPF de l'hôpital, quand même un avantage. Je me suis payé une formation, enfin le CPF m'a payé la formation de base de photographie. Mmh. Et puis moi, avec mes économies, je me suis payé deux formations spécifiques, nouveau-nés.
Ouais.
Plus d'autres formations en ligne sur la grossesse, la photographie de grossesse.
D'accord, parce que c'est vrai que c'est quand même assez... Enfin, c'est très spécifique. Mmh. Est-ce que justement, tu peux en parler un petit peu ta formation de photo... Déjà, truc à noter, c'est que t'avais pas forcément d'appétence pour la photographie avant ça ou,
Alors si, quand même. Ouais. J'ai toujours adoré ça.
Ah oui.
Faudrait que tu vois mon escalier, il y a des photos
partout. J'ai vu, magnifique. Donc forcément, je suis arrivée, j'ai vu une très belle maison et des formations professionnelles obligent. Oui, j'ai apprécié, oui, j'ai bien vu.
Et ben, il y a des photos partout.
Ouais.
Mais je le vivais plus comme...
Une passion. Quoi.
Oui, j'adore prendre mes filles en photo, notamment. Mmh. Et c'était tout, quoi. C'était... Et sans formation quelconque, c'était plus du feeling. Donc, il a bien fallu commencer par le début, avec cette formation très théorique.
Oui, c'est ça.
Très compliquée, parce que je le faisais... J'ai commencé en avril, la formation, donc je travaillais.
D'accord.
Et le soir, je faisais cette formation en plus.
Oui. Ouais, ça a dû être... j'imagine.
Ouais.
Je suis passée par là. Oui.
Tu vois.
Ouais.
Et à côté de ça, ça me donnait aussi de l'énergie, justement, parce que je savais que c'était la fin de quelque chose et que je commençais...
Ouais, t'avais quand même, finalement, t'étais quand même boostée...
Ouais.
Voilà, par la nouveauté et puis aussi à la possibilité de changer quoi, de vie.
Exactement, ouais.
Ok, et alors du coup, donc, tu savais que tu voulais être vraiment spécialisée dans la photo donc, de naissance, parentalité, tu l'as dit tout à l'heure. Et finalement, quelles sont les différences? Enfin, c'est vraiment spécifique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quoi ça consiste?
Alors moi, au départ, j'étais vraiment focalisée sur les photos de bébés.
Oui.
Il faut savoir quand même que quand j'étais ado, je collectionnais, même pas ado, petite fille et ado, je collectionnais les photos de bébés. J'en avais partout, je les collais dans des cahiers et tout.
Tu vois, mais...
Ouais.
Tu parles beaucoup depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de fait de t'autoriser à faire les choses, etc. Et bon, j'avoue que je voulais te demander si parfois tu te dis pas que c'est simplement alors après moi je suis peut-être un peu trop dans ma spiritualité ou je sais pas, mais que parfois c'est juste comme des évidences ou des signes ou le destin ou je sais pas. Mais c'est vrai que là tu vois quand tu me parles du fait que tu collectionnais des photos de bébés et aujourd'hui on voit le métier que tu fais. Moi, je me dis quand même que c'était comme si c'était un peu écrit, quoi.
Ouais, mais je pense aussi aujourd'hui, j'interprète ça aussi par le fait que pour moi, un métier, c'était justement tout ça. C'était un cadre, des horaires, c'était être salarié. Je
ne voyais
pas ça différemment. Je pense que mon père était d'un milieu ouvrier, ma mère est auxiliaire de puériculture.
Ouais.
C'est très.
T'avais un cadre aussi qui te montrait que voilà, ça se passe aussi comme ça.
C'est ça. Ouais. Et encore une fois, je pensais pas que moi je pouvais faire différemment. C'était pour les autres.
Ouais, je comprends.
Ouais. Et donc ça a joué dans le choix de que tu fais de tes études. Et donc oui, je pense quand même qu'il y a quand même quelque chose de
que tu t'autorisais pas forcément à ressentir et que voilà, qui arrive comme une évidence et
c'est exactement ça.
Et voilà.
Et donc tu commences, j'ai commencé en vraiment en me disant photo de bébé et il faut beaucoup de formation quand même parce que tout ce qui est manipulation, bébé, etc., moi je considère que j'avais quand même la formation théorique sur le développement, sur la grossesse, etc., avec ma formation de psy. Et puis j'ai commencé à offrir des séances contre autorisation de publication, ce qui se fait pour commencer. En fait. Et petit à petit j'ai ouvert Et en fait, moi, je me suis rendu compte que bébé, c'était ce que j'adorais. Et j'avais un peu peur d'aller du côté grossesse, du côté famille, parce que... Bah parce qu'au départ, enfin moi je veux que tout ce que je fais soit parfait tout de suite, donc avec un bébé, t'as pas son retour. Les parents sont souvent très heureux de voir leur bébé en photo, même si le résultat est parce que toi tu es en dette. Et donc c'était un peu, encore une fois, pour commencer, du confort. Et là, je me rends compte que j'adore aussi, j'adore le contact que j'ai avec une femme enceinte, j'adore le contact que j'ai avec des familles, avec des enfants plus grands, de pouvoir avoir des super résultats trop authentiques et qui retranscrivent l'émotion. À côté de ça, je suis en train de réfléchir à tout ce qui est estime de soi autour de la féminité, de la femme. Et vu que je commence à prendre confiance aussi doucement, je vais développer ça. Voilà, ça prend forme
au fur et à mesure. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, maintenant que tu es vraiment dedans, ce que tu t'autorisais à faire, on a l'impression que tout d'un coup, tu vas accepter que parfois ça vient aussi, parce que c'est juste une suite logique. Voilà, et j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est super.
Ouais, je le vis comme ça, effectivement.
Ouais, et en plus, c'est marrant parce que. Moi je te vois, nos auditeurs auront juste le son de ta voix, mais je pense que même ça s'entend au sourire, c'est que tu as parlé de ton métier tout à l'heure comme une vocation, c'était très solennel, etc.
C'est vrai.
Et là, je te vois t'ouvrir et sourire juste en parlant de ton métier actuel, et je comprends que tu es vraiment en phase avec ça aussi. Ouais. Je dis pas que tu n'étais pas en phase avec l'autre,
mais
c'était différent. Mais
je crois que c'est deux personnalités un peu différentes qui s'expriment.
C'est ça, c'est complètement ce que je remarque là en live, là comme ça.
Mais c'est vrai que c'est complètement opposé quand je t'entends là.
Ah oui,
parce qu'en même temps, tu peux pas parler de suicide avec un grand sourire.
Non, c'est sûr.
Et d'un autre côté, tu peux pas parler de photos de grossesse, de naissance. Sans un grand sourire.
Bah oui.
Et c'est vrai que c'est frappant, ces deux opposés, même s'il y a beaucoup de... Ce qui les rapproche, c'est le lien, être en lien avec la personne, je sais que j'en ai besoin, et l'émotion.
Ouais. C'est complètement ça. Et puis, en plus de ça, la transition, elle se fait aussi quand toi-même, tu deviens maman et tout, et je trouve que ça va complètement ensemble. Enfin, j'ai l'impression, je suis personne pour le dire, mais que c'est quand même une suite logique, quoi. Donc ça, c'est plutôt... C'est plutôt chouette et hyper intéressant. T'as l'air épanouie, en tout cas, maintenant.
C'est pas facile, hein, pourtant.
Ouais. Par exemple, est-ce que tu peux nous parler d'une difficulté
La difficulté, c'est de dire les choses, déjà. De dire à ton entourage, j'arrête d'être psychologue. Ouais.
Justement, ça, j'allais y venir pour, on va dire, la troisième partie de ce podcast. C'est, t'as fait donc cette reconversion. Et là, pour le coup, parce que finalement, la première fois, tu deviens entrepreneur, mais ça reste dans ton métier. Donc, c'est un changement, certes, mais on reste quand même... Mais là, tu changes complètement du tout au tout.
Ouais.
Comment ça se passe? En plus, tu me disais que tes parents donc, avaient plutôt un cadre assez classique. Comment ils l'ont pris? Comment ton entourage l'a pris? Et comment est-ce qu'ils l'ont vécu, quoi?
Alors c'est particulier parce que je l'ai vécu de manière très intériorisée d'abord.
D'accord.
J'en ai parlé uniquement aux personnes avec lesquelles j'étais en totale confiance par rapport à leur réaction. Donc à très très peu de gens, mes 4-5 amis, quoi, Simon, ma sœur, et c'est tout. Parce que j'avais très peur des réactions des autres. Vu que je doutais de moi, je crois qu'on peut le dire au présent d'ailleurs, vu que je doute de moi, de manière générale, le regard des gens que j'aime et prend même
ça peut, ça
trop,
peut avoir
trop de place.
Beaucoup d'impact.
Énormément. Et comme j'étais quand même bien décidée, je me suis dit que pour protéger ça, il valait mieux que j'en parle quand les choses seraient
Quand
confirmé.
Pour toi, t'es vraiment sûre.
Ouais. Et, je sais même pas si s'il y a des gens après, à part mes amis, à qui je l'ai dit de vive voix, tu vois. Ah. Je pense que donc mon papa est décédé. Et ma mère, je lui ai dit quand même. Et je l'ai même fait deviner, tu vois,
ah oui.
La difficulté de dire les choses. Mmh. Et elle a deviné, et elle a retrouvé ce papier-là où j'avais dessiné quelque chose à la maternelle, où la maîtresse demandait le métier qu'on voulait faire plus tard, et elle l'écrivait. Et il y avait écrit photographe.
Ouais. Encore. Tu vois, avec signe, ouais. Voilà, je ne le savais pas, hein. Il y a pourtant quelques minutes.
Oui.
je crois beaucoup aux petits signes comme ça qu'on voit pas, mais bon, un jour on se dit, mais c'est vrai que c'était évident.
Ouais. Elle, je lui ai fait deviner, et les autres, je crois que Simon en a parlé un peu.
D'accord.
Pas moi directement. Et puis après, ça s'est fait un petit peu tout seul, mais j'ai pas fait une annonce.
Oui, t'as pas été, ouais.
Non, ça s'est vraiment fait au compte-goutte. Et même encore, tu vois, j'ai du mal à dire.
Oui, je le sens. Ouais. Après, c'est vrai que c'est encore vraiment tout nouveau, mais ça va se. Petit à petit, tu vas être un peu plus détendue par rapport à ça. Et puis aussi, à force de le vivre et de le faire.
Déjà de faire ce podcast aussi, non ?
Ah oui, écoute.
C'est une sacrée démarche quand même, hein.
Ouais, écoute, ça me fait plaisir si toi, ça te permet aussi de te libérer là-dessus, vraiment. Alors là, lâche-toi. Et justement, d'un point de vue un peu plus, on va dire, administratif. C'est vrai que tu avais déjà fait la démarche un petit peu avant, mais là, voilà, vraiment de se lancer en plus. Donc là, tu es photographe libéral.
Oui, en auto-entreprise.
En auto-entreprise, ouais. Voilà. Et alors, comment ça s'est passé les démarches pour toi, ça a été assez simple.
Ça a été, ouais. Parce que j'ai clôturé mon libéral en juin et j'ai ouvert en septembre. J'étais encore dans les démarches de clôture, qui étaient bien plus compliquées que d'ouverture. J'y suis encore d'ailleurs. Donc, l'ouverture au niveau administratif, assez simple. Et au final, passer de libéral à auto-entrepreneur, c'est plus facile que de passer d'auto-entrepreneur pardon, en libéral.
Ouais.
Libéral, tu as quand même beaucoup plus de compta. Et pour l'instant, auto-entrepreneur, ça va. Ouais, c'est pas du tout ce que j'aime.
D'ailleurs, je salue tous les entrepreneurs qui vont écouter ce podcast, parce que je pense qu'on doit être un peu tous dans la même.
Ouais, je sais pas s'il y en a qui aiment, s'ils ont envie de m'aider d'ailleurs.
Ouais, je sais pas non plus. Tu vois, moi personnellement, j'aime pas du tout ça. Après, j'ai un comptable qui est hyper sympathique et qui me dit non, mais t'inquiète pas, je vais t'aider à adorer, mais en fait, non.
Je crois que ça, c'est impossible pour certaines personnes d'adorer ça.
Non, c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment un métier. Ça aussi, ça peut être une
vocation. Oui, je pense aussi, ouais.
Donc, voilà. Mais bon, effectivement, ça fait aussi partie du jeu. Ouais. Il faut passer par là. Et moi, j'aime toujours poser cette question parce que, étant moi-même passée par là il n'y a pas si longtemps que ça, je me dis, c'est toujours un peu, on va dire, le frein. C'est vrai que généralement, quand on se lance comme ça à son compte, et surtout si c'est en plus par passion, on se laisse un peu plus. Enfin voilà, on est porté par notre passion, et puis à un moment donné, il y a l'administratif qui nous rattrape, et là on se dit, en fait, il y a ça aussi.
Mais tu vois, je pense que pour le coup, le fait d'avoir eu ma transition en libéral, heureusement que je l'ai eu, pour cet aspect administratif et aussi pour accepter l'argent des gens.
Ah oui.
Parce que ça a été très difficile au début pour moi en libéral, d'accepter d'être payée. Et le fait d'accepter aujourd'hui que tu fais un travail et que du coup c'est normal, d'être rémunérée, et ben ça c'était une étape en moins. Donc l'administratif et le fait d'être payée directement. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé d'avoir cette étape libérale, tu vois.
Et justement, parce que ce que tu as ressenti là, on est beaucoup à le ressentir, hein, à vrai dire. Surtout quand on passe, ce sera intéressant de discuter avec un entrepreneur qui en fait est sorti de l'école et s'est lancé directement, pour voir si lui il ressent les choses de la même manière. Je pense que pour beaucoup qui ont été salariés avant et donc qui recevaient un salaire à la fin du mois, c'était quelque chose d'assez voilà, pratique, naturel, on se posait pas trop de questions. Et du coup, du jour au lendemain, de devoir se dire que bon, bah, en fait, je vais devoir demander en direct de l'argent aux gens pour me payer, en fait, pour pouvoir vivre aussi, bah, c'est jamais assez évident. Et j'ai, enfin, moi, honnêtement, en tant qu'entrepreneur aussi, j'ai ressenti ce que tu je pense même que je le ressens encore un peu, forcément. Enfin, toi, à ton niveau, comment tu fais pour te détacher, en fait, de ça, enfin, vraiment pour te dire, là, tu vois, tu disais... ben non, mais il faut, enfin c'est normal, je rends un service, donc
alors ça c'est mon discours.
Ah, voilà.
Mais j'en suis pas détachée.
Bah oui, en fait hein.
Par contre je suis accompagnée par une photographe qui m'aide justement c'est... alors quand j'étais psychologue j'étais en supervision. Ça fait partie quand même des outils que tu peux avoir pour gérer les difficultés avec tes patients, tes émotions. Donc tu payes un psychologue pour qu'il t'aide, à gérer.
D'accord.
Et du coup, moi, j'ai cette culture aussi de ne pas être seule. Mmh. Et là, je le vis un peu de la même manière. Pour moi, je suis supervisée par une photographe qui m'aide à fixer mes tarifs. Là, on est en train de revoir tous mes tarifs parce que j'avais fixé très bas et que si je veux pouvoir en vivre, ça ne sera pas viable. Donc on est en train de revoir ça, de... revoir mon sentiment de légitimité, tout le côté artistique aussi à développer. Donc c'est moi c'est par ce biais-là que ça me rassure d'avoir une forme de
mentor.
Et aussi pour cet aspect financier. Mais moi personnellement pour l'instant j'en suis pas encore détachée et c'est pas naturel de recevoir de l'argent.
Et on parle beaucoup dans l'entrepreneuriat du syndrome de l'imposteur. C'est un peu ça, hein. C'est ce que tu... en dehors du fait... parce que généralement, oui, alors tu te dis que tu dois... enfin, on doit te rémunérer pour un travail que tu fais. Et puis à un moment donné, tu te dis, bah ouais, mais quelle est ma légitimité parce que qui me dit que ce travail, je le fais bien.
Exactement.
Par rapport à un photographe qui, lui, est là depuis...
Tout à fait.
Voilà. Et c'est vrai que, du coup, quand on vient de se lancer, je trouve que c'est vraiment une bonne chose, effectivement, d'être quand même accompagné. Au-delà d'être accompagné par tous les instituts qu'on a autour, ou les associations et compagnie, vraiment d'avoir quelqu'un qui, pour le coup, lui, a de l'expérience. Et si possible, quelqu'un qui s'est lancé un peu comme nous, enfin, un entrepreneur qui a vraiment cette expérience-là et qui est passé par là, qui a... et aussi bah, pas mal se écouter quoi les expériences un peu des autres, enfin voilà, moi je suis très podcast et on a beaucoup de podcasts qui parlent de ça et tout ça, mais je trouve que c'est très bien de faire ça, tu vois, je trouve que c'est même un bon conseil qu'on peut donner pour des personnes qui aimeraient se lancer, qui ont fait le pas de se lancer mais voilà qui savent pas trop, qui se disent bon est-ce que je peux vraiment faire ce prix là est-ce que finalement, est-ce que mon travail vaut ce prix-là, etc.
Je suis convaincue, moi en tout cas, depuis que je suis avec Réa, elle s'appelle, ça me rassure déjà. Et ne serait-ce que ça, c'est tellement précieux d'être rassurée.
Bien sûr.
Et ça me donne un cadre aussi. Donc oui, si ça peut être un conseil à donner, c'est de savoir s'entourer et des bonnes personnes parce que il y a une tendance aussi là à proposer énormément de formations, de mentorat, et je pense qu'il faut aussi réussir à faire le tri.
Il faut bien sélectionner, j'aime pas trop ce terme non plus, mais c'est ça, il faut vraiment bien savoir avec qui on va. Et voilà, il y a toujours une limite dans tout ça, mais. Effectivement, connaître, tout à l'heure je parlais d'expérience, voilà, vraiment se renseigner sur la personne. Après, quand on a de la chance d'en avoir dans son entourage, bah, tant mieux. Mais voilà, si c'est une personne qu'on ne connaît pas forcément, oui, vraiment bien se renseigner, voir un petit peu ce que la personne a fait. Et pour le coup, voilà, ça sera quand même une.
Et puis que ce soit quelque chose quand même de très individualisé. C'est pas de manière générale. Moi, c'est ce qui me correspond, c'est de sentir que j'ai des questions très spécifiques et que j'ai des réponses, moi, en tant que Charlène, individu, et que c'est pas... Il y a des mentorats par groupe,
oui,
par exemple,
groupe, ouais.
Qui peuvent être certainement très bien, mais c'est savoir identifier toi tes besoins.
Oui, c'est ça, que ce soit vraiment ciblé par rapport à toi, ta demande. Quoi.
Ouais, exactement.
Effectivement, oui, il vaut mieux avoir quelqu'un qui soit avec toi, voilà, une sorte de guide, entre guillemets.
Je trouve plutôt qu'une formation générale ou qui va être la même pour tout le monde. Là, ce que j'aime, c'est que je suis moi accompagnée spécifiquement. Ouais.
Ouais.
C'est très, très précieux.
Eh ben, c'est un super... je trouve que c'est un super conseil. Vraiment, pour le coup, moi-même, à mon niveau, j'ai... Non, je pense que j'ai jamais vraiment fait appel à quelqu'un pour m'accompagner. Enfin, pareil, hein, pour déterminer des prix. Et puis, ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que bien souvent, quand on se lance, on a envie de faire des prix peut-être un peu moins élevés parce qu'on se dit, bah, en fait, on est nouveau. Et oui, ça se comprend, on peut le faire. Pas trop longtemps non plus, parce que voilà. Il y a l'aspect, il faut vivre, mais il y a aussi, je trouve, vis-à-vis du client, je dis pas que ça fait tout, hein, mais quelque part, d'avoir un prix, on va dire, juste, ça renvoie quelque chose aussi au client,
bien sûr.
Quand on est trop bas, le client, ça peut renvoyer...
que t'es moins performant
ou que c'est moins bien, et puis si finalement il travaille avec toi et qu'il se rend compte que c'est pas trop mal, il se dit je peux profiter un petit peu, etc. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment hyper important de bien travailler cet aspect là de se faire accompagner. C'est normal d'avoir des prix un peu plus bas au départ, mais voilà, faut jamais que ça dure trop longtemps, quoi.
Aussi par rapport aux autres
Et aussi, nos concurrents, peut-être, et puis plus largement, les clients. C'est un super conseil, ça, tu vois, super conseil d'entrepreneur. Et bien, écoute, ça nous emmène doucement, là, à la dernière partie du podcast. Ouais. est-ce que toi, tu as, en fait, dans cette dernière partie, moi, j'aime toujours demander à mes invités qu'est-ce qu'ils retiennent, finalement, de ce parcours, de ce qu'ils viennent de me raconter. Et toi, pour le coup, c'est un parcours de vie, c'est ta vie professionnelle qui a évolué. Qu'est-ce que tu retiens finalement de ça ? Parce que tu nous as parlé de tellement d'aspects. Moi, j'en ai retenu deux en particulier, mais bon, voilà, je vais quand même te laisser répondre.
En fait, quand je t'écoute, et du coup, le fait de parler de ça, c'est quand même hyper intéressant parce que tu te poses jamais pour... Enfin, je me pose jamais pour parler de moi aussi longtemps. et du coup, je me rends compte... La motivation de tout ça, ça reste quand même ce que je veux transmettre à mes filles. Et je crois que si elles étaient pas là, enfin je sais que si elles étaient pas là, j'aurais pu rester psychologue parce que j'aurais eu l'énergie déjà, mais aussi parce que c'était... ça allait, quoi. J'adore ce que je fais. Mais je trouve que aussi ce que je peux leur montrer là, c'est que on peut changer, on peut s'autoriser à faire autre chose, on peut se former, on peut être différent, on peut s'assumer. Et ça, j'aurais beau leur dire à mes filles, je sais que ce qui restera, c'est ce que moi je vais être, c'est ce que moi je vais leur montrer.
Certainement.
C'est pas mon discours. Et si je leur dis, les filles, dans la vie, il faut que... moi, ce que je veux, c'est qu'elles soient heureuses. Et la meilleure manière de leur montrer, et la meilleure manière pour qu'elles le soient, c'est que moi, je le sois.
Exactement.
À 100%, si c'est possible. En tout cas, essayer de l'être. Et c'est ça que je me dis. Je me dis que le moteur, en réalité, c'est moi pour elles.
C'est ça, c'est le meilleur, le meilleur exemple, j'ai envie de dire. Elles vont te voir, et puis comme une sorte de mimétisme que parfois on se dit, oh, j'aimerais, enfin oui, des fois on entend, j'aimerais pas qu'elles fassent comme ça, j'aimerais qu'elles soient meilleures, etc. Mais la plupart du temps quand même, voilà, c'est généralement la maman, c'est un peu le modèle, mais quoi. Oui. Hein, voilà,
et tu vois. Globalement, en psycho, on apprend aussi très bien que la manière dont on apprend et dont nous on apprend, mais les enfants apprennent, c'est par imitation du modèle. C'est pas le discours, enfin bien sûr que ça joue, mais c'est pas ce qu'on aura entendu, c'est ce qu'on aura vu, c'est la manière dont on se sera comporté, on se comportera pareil, etc. Donc ça, j'en suis convaincue, et du coup je suis aussi convaincue du bienfait de ma démarche pour elle. Ouais. Et quand je les entends des fois, Rose là, qui est toute petite et qui me dit et maman, tu vas prendre des photos de bébé aujourd'hui? Ouais. Tu vois, ce changement de regard qu'elles ont déjà sur moi, et pour elles c'est comme ça, quoi. C'est, ça y est, il n'y a même pas de questions à se poser. C'est un moteur.
Mais tu sais que souvent c'est plus pour nous les adultes que c'est difficile à, comment dire, à vraiment accepter le changement, même quand il vient de nous, hein, c'est-à-dire voilà, on a tout fait pour le mettre en marche, voilà, maintenant c'est fait, mais on a du mal à l'accepter, et puis on s'imagine que nos enfants vont pas, alors qu'en fait pour eux c'est tellement simple, ils se posent pas de questions,
c'est ça,
tu vois. Et et si en plus de ça, parce que les enfants, enfin voilà, tu sauras peut-être mieux en parler que moi, mais je sais qu'ils ressentent vraiment tout ce qu'on. Et s'ils te ressentent épanouie, heureuse, en fait ils le sont aussi. Hein. Ils se posent pas plus de questions que ça.
Et c'est le meilleur modèle que je peux leur donner, du coup. Ouais.
Une question peut-être que beaucoup d'entre nous, enfin beaucoup de personnes doivent se poser. Je me demandais, est-ce qu'un psychologue peut lui aussi consulter un autre psychologue?
Oui, tu peux consulter pour différentes raisons. Donc pour être supervisé d'abord, si tu as besoin d'être guidé dans ta pratique, etc. Et après, c'est même pas qu'un psy peut consulter, c'est que s'il va pas bien, pour moi, un psy doit consulter un autre psy.
Mais justement, parce que tu dis s'il va pas bien, est-ce que... je me pose la question sur la capacité à savoir si... parce que à être confronté comme ça au quotidien et de se mettre dans une espèce de rôle, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que finalement... il y a cette capacité à pouvoir voir que soi-même, en fait, on...
J'espère.
Tu vois.
J'espère que normalement, ça fait partie de ta formation.
Okay.
Et déontologiquement, tu dois pouvoir être en mesure. Alors, si t'es vraiment très mal ou pas assez mal, peut-être qu'il y a des moments où tu le repères pas. Mm-hmm. Et où faire la démarche reste difficile, hein, parce que moi, je l'ai fait plusieurs fois sans aucun tabou là-dessus. Néanmoins, le moment où tu appelles le ou la psychologue et que tu es face à lui en séance en disant alors je suis psychologue, t'as toujours un moment avec tes propres représentations où tu te dis oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi, une psychologue qui va mal, etc., etc.
Ouais, c'est justement pour ça que je te posais la question.
Mais si t'es face à une bonne psychologue, elle te prend en charge tel que tu es, et que tu sois psychologue, garagiste ou écrivain, ça change absolument rien pour elle. C'est juste tes propres représentations en réalité que tu projettes, mais oui, pour moi, un psychologue qui va mal, ça peut pas être un bon psychologue. J'avais un formateur, ça m'est toujours resté, qui disait le premier objectif du psychologue pour lui, c'est d'aller bien. Parce que en allant mal, tu peux difficilement
aider un bon psy. Personne elle, pour le coup, va mal aussi.
Et j'ai entendu des discours de patients où je me dis que certains psychologues soit auraient dû consulter, soit même auraient dû arrêter d'être psychologue, parce que moi aussi je croyais qu'avant on pouvait être psy toute sa vie et que c'était comme ça, on se posait même pas la question. Mais je crois que c'est usant, ça peut être usant, et que si tu le reconnais pas, tu peux devenir dangereux aussi pour tes patients, parce que conseiller quelqu'un qui va mal en allant mal.
C'est compliqué quand même.
C'est compliqué. Donc oui, pour moi, un psy peut consulter, et des fois même, il devrait consulter. Ouais.
Alors, du coup, Charlène, avant de clôturer notre épisode, j'ai trois questions rapides. C'est le moment un peu rigolo du podcast, là. J'ai trois questions rapides. Voilà, on est de notre quotidien en tant que parents, non pas en tant que maman, parce que j'ai des papas aussi qui répondent à ces questions-là. Donc voilà, c'est à tous les niveaux. Alors, on va s'imaginer donc voilà qu'on est dans une semaine classique. Et puis je vais te demander, je vais prendre plusieurs jours dans la semaine et des moments bien précis. Et puis je vais te demander ce que tu fais à ce moment-là.
D'accord.
Alors, on commence par le lundi à 9h.
Alors, le lundi à 9h, donc là, si on est. C'est un nouveau rythme hein, pour moi, mais le lundi à 9h, c'est Simon qui a déposé les filles. Et je pense que c'est le moment où je souffle après le week-end avec les filles, où je me retrouve seule. Et où ça fait du bien, du coup. parce que. Même si je les aime de tout mon cœur, c'est...
On aime bien s'en séparer un petit peu pour mieux les retrouver.
C'est ça.
Voilà. Pour dire les choses de manière très très positive.
Tout à fait. Et donc le lundi à 9h, c'est le moment où on se sépare un peu.
Voilà. Ok. Le mercredi à 14h30.
Alors, le mercredi à 14h30, j'ai Rose qui dort. Et Liz qui doit commencer à appeler en disant « Maman, je peux me lever !» Et toi, t'espérais que ce soit plutôt 15h, 15h30. Mais voilà, là, le 14h30, c'est l'heure où...
La sortie de sieste.
Ouais, de temps calme de même, temps calme. Parce qu'elle commence à plus faire la sieste, la grande. Mais oui, c'est ce moment-là.
Ok. Alors ça, c'est le jour et le moment qu'on aime bien en général. Le vendredi, aller à 17h45.
Ah ouais. Bah, c'est un moment où t'as pas de pression. Où tu sais que le lendemain, il n'y a pas besoin de se lever pour les emmener à l'école. Donc là, bah, c'est aujourd'hui en plus.
Oui, ouais, c'est vrai. On est vendredi.
17h45, bah, je serai avec les filles. On sera sûrement toutes les trois parce que sinon, on ne sera pas encore rentrées. Et on ne sera pas obligé de se presser pour le bain. On ne sera pas obligé de se presser pour quoi que ce soit. Elles seront peut-être en train de jouer toutes les deux. Et moi, je réfléchirai à qu'est-ce qu'on va manger tranquillement.
Voilà. Ouais. Tout est plus, plus détendu, tout est plus calme
les
le vendredi
soir. C'est
et ouais, on a tous, c'est vrai, on a tous le même retour là-dessus. C'est assez, c'est assez drôle. Ben écoute, merci beaucoup.
Merci
d'avoir de m'avoir reçu ici chez toi et puis pour cet épisode qui est super intéressant. Voilà, et je te dis à bientôt.
À bientôt.
Un grand merci à Charlène d'avoir partagé son parcours avec nous. Et bien sûr, un immense merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter les réseaux sociaux de Charlène, notamment Instagram, @chalegerphoto, ou son site web charlenleger.com. La vie est faite de changements et d'évolutions, et j'espère que cette histoire vous a rappelé que chaque transition peut être une nouvelle aventure pleine de découvertes et de croissance. Merci de faire partie de la communauté Moana. Restez inspirés et bienveillants, et à bientôt pour de nouveaux épisodes captivants. Prenez soin de vous.